Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Sophie a un monde intérieur profond. Depuis toujours, son imaginaire est son meilleur allié. Avec force et délicatesse, elle nous invite à découvrir son univers à travers l'écriture d'un roman foisonnant. Dans cet épisode, découvre son processus d'écriture et comment elle parvient enfin à assumer cette voie qui lui semble être destinée. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sophie Bernard, j'ai 33 ans. J'habite à Liège. J'ai toujours aimé lire. J'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente, d'abord de manière éparse. En ce moment, je travaille avec le mot qui délivre sur un projet de roman qui me tient à cœur depuis plusieurs années.
Oui, donc c'est vrai qu'on se connaît déjà bien toutes les deux et ça fait vraiment plusieurs mois, peut-être même plus d'un an qu'on travaille ensemble sur un projet qui te tient vraiment à cœur, d'après ce que j'ai compris. Et est-ce que tu peux nous parler de ce projet d'écriture, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe en ce moment ?
Donc c'est un roman de high fantasy que j'ai commencé à imaginer quand j'avais 12 ans. À l'époque, j'étais harcelée à l'école et mon contexte familial n'était pas génial. Et j'avais besoin d'une échappatoire et donc je me suis créée cet univers dans ma tête où il y avait cette héroïne, prénommée Eiko, qui vivait des aventures et d'une certaine façon c'était un peu la personne que j'étais malgré moi et la personne que j'aurais voulu être, qui était beaucoup plus forte, qui surmontait les épreuves. J'ai commencé par écrire quelques petites histoires de style fanfiction quand j'étais adolescente, que je lisais à ma sœur et sa meilleure amie et qui déjà les accrochait pas mal. Et un jour, mon père m'a, au détour d'une discussion où je lui expliquais ce que je faisais, m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre ?» Donc je me suis dit « Tiens, oui, cette idée me plaît vraiment bien. »
Et ça, c'est vers quel âge alors que tu te dis « Je pourrais écrire un livre ?»
J'avais 14 ans, je crois.
Waouh ! Donc ça, c'est jeune, quoi, vraiment.
C'est jeune, oui. Mm-hmm. Mais je n'en ai rien fait à cette époque-là, d'autant que j'étais vraiment mauvaise en orthographe et que un professeur me l'avait fait remarquer de manière tout à fait agréable.
Sympa.
Ouais. Et donc, les années sont passées et j'avais toujours ce projet dans un coin de ma tête où je me disais un jour, j'écrirai cette histoire, un jour, j'écrirai un livre. Et ma première tentative s'est déroulée en 2010, où j'ai fini les études. J'étais en stage d'attente pour le chômage et c'était la crise. Donc, je n'arrivais pas à trouver du travail. Et je me suis dit, autant utiliser cette période à bon escient. Et j'ai commencé par chercher sur Internet des méthodes, comment écrire un livre.
Ah oui, donc tu te dis, ça y est, j'ai du temps pour moi. J'imagine quelques années un peu plus de maturité aussi. Et tu dis, bah oui, je fais quelque chose de ça. C'est peut-être le moment. Tu as senti que c'était le moment de s'y mettre alors
Je suppose. Je ne me souviens pas très bien de mon état d'esprit à l'époque, mais je sais que j'avais envie de le faire et que je trouvais que c'était vraiment le bon moment. Donc j'ai trouvé cet article d'un auteur qui disait s'installer à la même heure chaque matin devant son ordinateur et écrire un certain nombre de mots. Donc dans ce cas-là, c'était 1000 mots, je pense. Mm-hmm. Et à l'époque, je me rappelle qu'atteindre ces 1000 mots était vraiment, vraiment difficile. Mais je me levais le matin, je faisais ma petite recherche d'emploi et puis je me mettais à écrire. Et au bout de, je pense qu'il m'a fallu un an, j'ai eu fini.
Ah oui. Donc, quand tu dis que tu as eu fini, c'est que tu t'es vraiment dit, je me tiens à cette rigueur, cette discipline que tu t'es en fait toi-même imposée quelque part, de 1000 mots par jour. Et en un an, tu as posé un premier jet, on pourrait dire, alors, d'une histoire qu'il y avait dans ta tête, quoi.
Donc, le mot « fa » est arrivé sur la page.
Waouh ! Déjà, rien que pour ça, bravo ! Parce que déjà ça, se dire « je peux mettre fin sur un projet si jeune », super.
Et de là, en fait, c'est un peu resté, ça en est un peu resté là. Parce que la vie a fait en sorte que j'ai quitté la personne avec qui j'étais, j'ai dû déménager. Finalement, j'ai repris des études à l'université et j'ai laissé ce projet à nouveau de côté. Et un jour, j'ai passé ce manuscrit à mon meilleur ami de l'époque. Et son retour a été complètement inattendu, c'est-à-dire qu'il a adoré, il a trouvé que c'était vraiment génial. Et il n'avait qu'une envie, c'était de connaître la suite. Donc ça, ça a été vraiment la première étape qui m'a vraiment, vraiment boostée. Et où je me suis dit, ah oui, donc en fait, ce que j'ai écrit n'est pas mauvais.
C'est un premier retour, en fait.
C'est ça.
Et ça donne des ailes, un petit peu, j'imagine.
je n'oublierai jamais. Donc oui, ça m'a marqué.
Oh.
Et il a été jusqu'à passer mon manuscrit, en fait, à des amis à lui, en disant, il faut que tu le lises, ça, c'est vraiment bien. Et le temps faisant, l'expérience faisant, j'ai commencé à me dire que je pensais pouvoir l'améliorer. Donc, en fait, j'ai fait ce fameux retravail, mais vraiment plusieurs années plus tard, en me disant, je ne me sens pas prête à entamer le tome 2 parce que j'ai l'impression que le tome 1 n'est pas abouti. Et j'ai retravaillé ce roman et l'idée, c'était en fait de le proposer à cet ami en cadeau de Noël, en lui disant, ben voilà, j'ai retravaillé et je te le repropose. À nouveau, la vie a fait que je n'ai plus été amie avec cette personne. Mais ce retravail de roman qui a été vraiment... J'ai retravaillé de zéro. Alors, je ne sais plus si c'est le manuscrit que j'ai soumis à un script doctor ou si, entre-temps, je l'ai réécrit de zéro encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je le fasse lire à quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra vraiment me dire...
Ah ouais.
Si ça va ou si ça ne va pas. Pas c'est une ça. Personne que je connais et vraiment quelqu'un d'hyper objectif.
Donc en fait, c'est très évolutif quand tu me dis, quand j'entends ce que tu me dis, c'est que d'abord, je le fais pour moi, c'est ça. Donc j'ai besoin de raconter une histoire, peut-être m'évader dans un monde. Et puis, chemin faisant, il y a un ami qui le lit et qui adore. Donc c'est déjà un retour et tu viens de le dire, tu ne l'oublieras jamais. Et je comprends parce que... entre garder un truc pour soi et l'offrir au moins à une seule personne déjà et qu'elle te dise waouh, c'est super précieux et important. Et puis en fait, tu te dis bah oui, mais est-ce que c'est vraiment objectif? Du coup, j'imagine que cette envie d'aller vers un pro, un professionnel, c'est-à-dire là, j'ai peut-être besoin d'un truc un peu plus rationnel, un peu plus sérieux. Et donc, tu as été voir quelqu'un en particulier?
Oui, et en fait, je reviens un petit peu en arrière. Je ne me suis pas dit toute seule que j'allais aller voir une professionnelle. En fait, c'est au détour d'une conversation un jour, un événement avec des amis où j'avais un petit verre dans le nez. Et en fait, c'était le seul moment où j'osais parler autour du fait que je rêvais de devenir romancière, que j'avais un roman en cours depuis des années et que c'était le rêve de ma vie et que c'était la chose que je voulais réaliser.
Il fallait un petit verre pour oser l'avouer à tout le monde.
C'était un secret de polichinelle. Et ce soir-là, il s'avère que la personne avec qui j'en discute me dit qu'elle connaît quelqu'un qui est une romancière publiée et qui travaille avec des auteurs. Et elle la connaissait parce qu'elle a participé à un atelier d'écriture créative avec.
D'accord.
Et donc, elle me donne le nom de Katia Lanero Zamora.
Ouais, super, super script doctor, conseillère littéraire.
Oui.
Ouais, ouais.
Et je prends contact avec elle. Je lui soumets mon manuscrit. Et c'était en... début d'année 2018, je pense que c'était que je lui en parle en janvier et qu'elle me revient vers moi en mars. Et là, on se rencontre dans la cafétéria du cinéma Souvenir. Et pendant une heure, elle m'explique tout ce qui ne va pas.
Oh, misère. Et parfois, il faut passer par là. Mais...
Oui. Et alors, bien sûr, elle m'a quand même dit des bonnes choses aussi, que, notamment que mon univers était vraiment bien ficelé, qu'on voyait que j'avais une maîtrise de ce monde que j'avais créé de rien. Mais effectivement, chaque fois qu'elle me fait une remarque sur un point, je me dis oui, c'est vrai. Oui, ah ouais. C'est vrai.
Donc tu sais accueillir la critique à ce moment-là.
Oui.
C'est important, ça, de pouvoir accueillir une critique qui démonte ou qui déconstruit en tout cas certaines choses de ton bébé, quoi.
Ben c'est surtout que j'ai une personnalité où j'ai vraiment envie de m'améliorer. Et je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et donc, quand elle me dit avec des arguments hyper constructifs que « Oui, mais on ne sait pas ton personnage, c'est quoi son objectif ?»« Oui, mais ton personnage du début à la fin, il est passif. » Et d'autres éléments de ce genre-là. En fait, je ne peux pas dire non. C'est vrai, je me rends compte moi-même. Et tout ce qu'elle me dit, ça me paraît évident. Et je me dis comment je ne l'ai pas vue.
En même temps, tu as commencé une histoire quand tu étais ado. Tu es repassée dessus, tu étais une jeune femme, aussi prise par d'autres choses de la vie. Et tu as quand même déjà réussi à mettre un début, une fin. Et donc, comment se dire qu'on doit tout savoir et tout connaître et tout maîtriser dès le départ? C'est compliqué. Donc, si tu peux simplement accueillir en auto-bienveillance que, ouais, il y a des choses à retravailler. Et je pense que globalement, tu as su l'accueillir positivement. C'est ça l'essentiel. Et pour te connaître, je sais que tu es un merveilleux exemple de « on remet le travail sur le métier encore et encore ». Mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que je pense que des plumes ou des auditeurs, des auditrices qui t'écoutent peuvent peut-être prendre conscience de ça aussi. Accueillir la critique, c'est important. Peut-être trier les critiques qui sont les bonnes et les plus constructives et les autres. Est-ce qu'il y a quand même des critiques où tu t'es dit ça, non, je ne suis pas d'accord, ça, je n'ai pas envie.
Mais il y avait des critiques où elle n'avait pas compris quelque chose. Mais bon, si elle n'a pas compris quelque chose que j'ai voulu placer dans le livre, ça veut dire aussi que ça ne va pas. Bien sûr, encore une fois, moi j'ai retenu quelques points de critique, mais il y avait aussi des aspects vraiment positifs du livre. Elle m'a dit ça, tu dois le garder. Ça c'est vraiment intéressant, etc. Et pour en avoir reparlé avec elle il n'y a pas si longtemps, donc plusieurs années plus tard, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais oublié mon histoire et qu'elle était très stressée à l'idée de venir et de me confronter avec toutes ces remarques et qu'elle avait été vraiment hyper heureuse de voir que je l'avais bien appris.
Ouais.
Et donc je l'ai vraiment bien appris parce que j'avais l'impression d'avoir buté devant un mur et de ne pas savoir ce que je pouvais faire de plus. Et en fait, ces critiques étaient comme une fenêtre avec de la lumière. Je me dis, ok, en fait, je peux faire encore pas mal de choses. Je peux m'améliorer. Et au bout, en fait, je suis rentrée chez moi avec ce mélange de découragement et d'enthousiasme.
Ah oui, c'est marrant que ça se côtoie comme ça.
Ouais. Parce que découragée, parce que simplement, je me suis rendue compte que je devais recommencer de zéro.
Oui.
Et
après autant d'années de travail déjà.
C'est ça. Et donc, j'avais cette part de découragement, simplement en me disant, en imaginant la somme du travail que je devais encore faire. Parce que bien sûr, elle m'avait donné des instructions et une marche à suivre en me disant, je te conseille de lire tous ces livres. Puis je te conseille
et tu les as tous
faire...
lus, je sais que tu les as tous lus.
Oui, des fiches, Canva, et réanalyse chacune de tes scènes, et puis seulement réécris. Et là, je me dis... En fait, c'était ça qui m'avait... Je me suis dit, OK, il y a encore une montagne. Je dois encore traverser une montagne. Et en fait, encore une fois, la vie a fait que pendant un an et demi... Et je pense que c'était un an et demi nécessaire, mais j'ai laissé ça de côté. Et j'ai simplement digéré et réanalysé toutes les choses qu'elle m'avait dit.
Ça veut dire que tu... T'as pris du recul, peut-être.
C'est ça.
T'as senti que c'était spontané ou c'était plutôt conscient ou inconscient
de dire...
C'était
inconscient.
Inconscient. Ça, c'est intéressant.
Ça a vraiment travaillé en arrière-plan où toutes les petites choses qu'elle m'avait dit, que j'avais lues sur son... Parce qu'elle m'a remis une fiche. Tout ce que j'avais lu a vraiment... J'ai déconstruit ce que j'avais fait. J'ai réfléchi à ce que j'avais fait et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. C'était un peu ça. Est arrivé l'été... c'était 2019 où chez Edmond, je rencontre Héloïse.
Qui ça?
Du Moki des livres, qui papote d'un week-end d'atelier d'écriture.
Déjà, je papote tout le temps, donc c'est normal.
Et donc, j'entends ça, mon oreille se dresse et je me dis, ah, ça s'est fait pour moi.
Ça, c'est dingue hein, quand même, autour d'un café.
C'est ça. Et donc, je me dis, tiens, j'avais justement à nouveau, je m'étais dit tiens, donc cet été-là en fait j'avais été diplômée du cours du sort de photo, et donc j'étais dans cette, j'avais déjà pris cette résolution, pardon, de me dire je termine cette formation qui m'a pris 4 ans et me connaissant je vais entamer quelque chose d'autre. Et
donc, pourquoi pas se reposer?
Non, je ne suis pas capable de me reposer apparemment. Je me suis juste dit, c'est le moment de reprendre le roman. Et surtout, je ne prends rien d'autre. Je ne reprends aucune activité. Je fais ça.
Donc, tu te remets back on track, focus, et tu te dis, on y retourne, quoi.
Et je commence à lire la bibliographie que Katia m'avait donnée. Et donc là, j'entends cette conversation, je me dis, ok, je vais participer à cet atelier. Alors, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était, de ce que ça allait m'apporter, je ne savais juste pas.
Mais donc je ça, me c'est dis, le week-end, je booste mon projet d'écriture.
C'est ça, le tout premier week-end,
ouais.
En juillet. Et donc, je me retrouve à ce week-end où déjà, je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis jamais dit que d'autres personnes avaient des projets d'écriture.
Donc, tu te dis, moi, je suis toute seule dans mon trip.
J'avais cette image de l'écrivain qui vit dans sa cave et qui fait tout seul et qui se cache. Et c'est ce que je faisais, finalement.
C'est fou parce que plein de plumes, enfin, toutes les plumes que je croise quasiment, beaucoup, la majorité, ont cette idée de, ouais, c'est un truc qui est difficile, solitaire... On n'en parle pas avec d'autres personnes, parce que tu as quand même mentionné qu'il a fallu un ou plusieurs verres pour oser le dire à des gens qui sont relativement proches de toi. Donc, c'est dingue, ça. Donc là, tu prends conscience qu'il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Il y a d'autres ovnis comme moi.
Oui. Et qu'il y a une multitude de types d'écriture et de projets.
Ouais, c'est vrai.
Après, je pense que mon expérience personnelle de la chose a fait qu'adolescente, j'avais partagé ce rêve avec des personnes malveillantes qui se sont moquées. Parce que... Une ado qui dit que mon rêve, c'est d'écrire un roman et de devenir romancière, c'est très différent de je veux devenir actrice ou chanteuse.
Ouais, c'est peut-être ça, un des premiers blocages qui fait qu'après, on n'assume peut-être pas totalement ce côté j'écris, ou j'ai même envie d'être publiée ou lue.
Et je pense que c'était un des aspects, plus tout l'imaginaire collectif de l'écrivain solitaire et qu'il cache. Et donc de découvrir qu'il y avait des personnes qui faisaient des autobiographies... qui faisaient des romans épistolaires, des généalogies, enfin vraiment toutes sortes de récits et d'écritures complètement différents du mien. Je me suis dit, enfin je sais pas, ça m'a fait un déclic.
Ah, c'est intéressant ça.
La partie aussi du week-end où on a parlé du fait d'assumer.
Gros morceau.
Et d'assumer ce qu'on faisait, d'assumer son rêve et de s'ouvrir et de ne pas avoir à se cacher, ça m'a aussi beaucoup marqué. Et puis, il y a eu ce fameux, en toute fin de week-end, où on nous a invités à lire ce qu'on avait travaillé pendant une heure. Et moi, j'avais retravaillé en fait simplement le début du chapitre 1 de mon manuscrit.
Oui, parce qu'en fait, c'est qu'à la fin de ce week-end d'écriture, ben, on vous demande, enfin, je vous demande en l'occurrence, de retravailler un petit passage, d'en écrire un nouveau et de tester cette écriture. Et si vous le souhaitez, de tester déjà avec un groupe avec lequel vous avez pris un peu d'aisance. Tester la lecture à voix haute et voir un peu leur retour. Et j'ai un souvenir de ce qui s'est passé, mais je te laisse le soin de... Je rappelle que le groupe était bienveillant.
Oui.
Mais je te laisse le soin de raconter la suite.
Et donc, je lis ce premier chapitre qui, en plus, je pense, tout le retravail que j'avais fait sur ce roman, celui-là, en fait, datait toujours de l'écriture que j'en avais faite en 2010.
Ouais, c'était une version, une des premières versions.
Quasi la première version. Et je lis à voix haute ce que j'avais jamais été amenée à faire. Et en fait, tandis que je lis, je me rends compte moi-même que ça ne va pas.
Et moi, je me souviens que j'ai vu ton visage changer à ce moment-là aussi.
Ouais, que c'était lourd, que c'était pas assez dynamique, que j'avais le sentiment d'ennuyer les gens. Et en fait, moi-même, je m'ennuyais. Et donc là, je me dis... J'ai toute une palette d'émotions qui passe à l'intérieur de moi où je me dis, ah mince, je suis encore en train de parler, ça ne va pas. Et j'arrête. Et alors, la plupart, enfin, toutes les filles sont vraiment hyper bienveillantes et elles me complimentent sur certaines choses, notamment le déplacement dans l'espace qui est hyper clair. Et ça, déjà, plusieurs personnes me l'ont dit, donc ça me conforte. Il me semble qu'il y avait un dialogue et qu'on m'a dit que le dialogue, pareil, était très naturel. Donc, il y avait vraiment des bonnes choses quelques petites remarques. Et puis, il y a cette dame qui, elle, déjà dans une posture corporelle qui est assez fermée, me dit, d'une manière un peu particulière, que ça manque de fluidité. Mmh. Et c'était vrai. Mais la façon dont elle l'a exprimé, en fait, a été pour moi assez brutale.
Ouais. Tu t'es pris quoi ? Un choc ?
Je me suis pris un mur.
Un mur ? Ah ouais, carrément, quoi.
Et il y avait aussi un échange qu'on avait eu sur les blocages qu'on peut avoir d'éléments dont on ne parle pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément dont je ne parlais pas, que je n'arrivais pas à aborder dans mon récit, et c'était le rapport au père.
Ouais, ça je me souviens bien de cette discussion, parce que on s'est rendu compte aussi que, et toi-même tu l'as amené vers moi, que tu avais besoin de mettre plus de, peut-être de personnel, d'authentique, d'humain finalement dans cette histoire, quoi.
Et je me suis dit, c'est vrai, et je pense que c'est la clé de certaines choses dans ce roman. Et ayant effectivement de grosses difficultés avec mon père, toujours à présent, ça me fait vraiment cogiter. Et quand je pars et que je reprends le bus pour rentrer chez moi, je pleure.
Ah oui. Est-ce que je peux faire une petite pause ? Parce que je me dis que pour les personnes qui nous écoutent, il y a quand même un truc dingue qui est en train de se passer à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu te prends un mur pour reprendre tes mots, donc c'est quand même un choc. Et je sais qu'on a parlé après, qu'on a un petit peu débriefé tout ça, et c'était vraiment un choc. Et la preuve, tu t'effondres dans le bus. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression que c'est un des plus gros déclics que tu aies pu avoir.
Tout à fait.
Une sorte de révélation. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus ? Tu prends conscience de quoi, alors, avec tout ça ?
Je prends conscience de... En fait, en comprenant que j'ai un blocage avec le père dans cette histoire, ça... J'ai comme quelque chose qui se déroule dans ma tête et j'ai plein de réponses qui arrivent en même temps.
C'est fou. Donc c'est dur, c'est violent. Et je sais que tu as vraiment vécu ça de manière violente, mais en même temps...
C'est libérateur.
Dingue, hein ?
Oui. Et donc, en fait, c'est vraiment un énorme déclic. Et je pense que c'est le plus gros déclic que j'ai eu dans toute mon histoire de jeune romancière, on va dire ça comme ça.
Après, c'est un processus, hein, c'est vrai.
C'est ça. Mm-hmm. Après ce week-end-là, je me dis... Ok, alors maintenant, c'est fini la déconne. je le fais, je prends mon rêve à bras le corps et je m'y mets, quoi.
Ça veut dire aller mettre les mains dans le cambouis, dans certaines choses, peut-être que tu évitais inconsciemment ou dans lesquelles tu n'avais pas envie d'aller
Oui, et en même temps, je me dis, c'est quelque chose que je dois faire, c'est quelque chose que je veux faire et je n'y arriverai pas toute seule. Mm-hmm. Et on avait discuté du fait que tu étais aussi coach.
Ouais.
Et donc, je me dis, OK, je vais demander à Héloïse de m'aider. Et donc, je passe d'abord je pense que je passe cet été-là à lire la bibliographie que Katia m'a donnée. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, parce qu'en fait, ces livres m'ouvrent énormément de connaissances qui me sont extrêmement utiles aujourd'hui. Dans la rédaction de ce roman.
En tout cas, ce que tu dis, c'est super intéressant et j'ai envie de revenir là-dessus. Parce que ce que tu soulignes, en fait, dans ce que tu nous racontes, et je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de plumes doivent avoir en tête, beaucoup de personnes qui sont dans ce process d'écriture, c'est que je ne suis pas seule et c'est un travail que je ne peux pas complètement faire seule. Donc effectivement, tu t'entoures de personnes qui te donnent des retours, des conseils, mais aussi tous ces livres que tu parcours, tous ces livres d'auteurs qui expliquent comment eux écrivent, etc. Même ça, tu n'es pas seule, tu es entourée de livres, tu es entourée de voix d'auteurs qui te susurrent à l'oreille des petites astuces, des petits conseils. Ça t'a aidé ? Tu t'es sentie un peu plus équipée, armée, j'ai envie de dire ?
Oui, complètement. C'est comme si... C'est comme si avant, je dessinais avec un crayon et que maintenant, j'ai une latte, j'ai des crayons de couleur, j'ai une palette. J'ai vraiment tout pour faire un magnifique dessin, quoi.
Oui, donc en fait, dans toutes ces suggestions que Katia Lanerose Amora t'avait envoyées, ces livres que tu pouvais parcourir pour t'aider, est-ce qu'il y en a que tu as lus et qui t'ont vraiment été utiles ?
Ouais, franchement, quasi tous. J'ai lu La dramaturgie de Yves Lavordier, qui est un livre sur la construction de scénario, qui s'adresse autant aux écrivains qu'aux scénaristes de cinéma, qu'aux personnes qui écrivent des contes. Enfin, vraiment, ça touche tout le monde. Inside Story, qui parlait de tout ce qui était des arcs. Donc, c'est le développement d'un personnage dans un arc positif, négatif ou neutre. Mes secrets d'écrivain d'Elizabeth George, qui est une autrice à succès américaine, mm-hmm. qui fait du thriller, mais dans ce livre, elle expliquait vraiment sa méthodologie de travail, son parcours. J'ai aussi lu Le héros mille et un visage de Joseph Campbell, mais ça s'adressait plus au style que j'écrivais. Et j'ai fini par lire les mémoires de Stephen King.
Ah oui, celui-là, il est connu. Je pense que beaucoup d'auteurs, beaucoup de jeunes auteurs se plongent dedans.
Ouais, écriture, mémoire d'un métier. Et là, je pense que c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé parce que on se rend compte que quand, par exemple, je me dis, j'ai commencé à créer cette histoire quand j'avais 12 ans, j'ai écrit une fois en 2010 et puis j'ai plus rien fait pendant plusieurs années.
Ouais, ouais, ouais.
Mais en fait, beaucoup, beaucoup d'écrivains passent par là.
Ah, c'est ça que j'attendais, en fait. C'est génial de dire que chaque écrivain, même Stephen King, qui est connu internationalement, chaque écrivain envoie ce message qu'on est tous passés par là, en fait.
Ça, et tout ce qui est aussi le fait que, par exemple, il va se promener quelque part et qu'un petit élément va l'inspirer. Vraiment, ce process d'écrivain qui sait qu'on a tout le temps la tête un peu dans les nuages. Ça fait du bien de se dire qu'en fait, ok, j'appartiens à ce groupe.
Tu te découvres une famille, alors tu te découvres une communauté même virtuelle.
C'est ça, ça
virtuelle.
Enfin, communauté. C'est un peu comme je pense. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour, par exemple, les musiciens qui ont peut-être, par rapport à se promener quelque part et avoir une mélodie qui leur apparaît dans la tête, un écrivain, il y a des choses qui se passent, je pense, et qui est commun à personnes comme nous.
Aux créatifs, en fait.
C'est ça. On va avoir des aspirations, des histoires, on va avoir cette urgence d'écrire.
Alors justement, j'aimerais t'emmener vers tout ça parce que je pense que ce qui intéresse beaucoup aussi les personnes qui se disent « j'ai envie d'écrire », c'est comment on s'y prend. Il y a des rituels, qu'est-ce que tu parles de te promener, tu as des images, des idées qui arrivent. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ces petits rituels que tu as pu mettre en place ou de ces petites astuces pour prendre conscience que tu es dehors quelque part et tu vois quelque chose et qu'il faut peut-être le noter, ou comment ça se passe ton process d'écriture aujourd'hui maintenant? Après toutes ces étapes où tu t'es dit il faut que je retravaille, je relis, je reprends tes mots, finis de déconner, on s'y met sérieusement, c'est super important. Maintenant, aujourd'hui, tu es quasiment à la fin de ton roman, on a beaucoup beaucoup bossé dessus, ça veut dire que depuis un an, j'ai l'impression qu'il y a encore une nouvelle manière d'écrire qui s'est imposée à toi, mais d'écrire pas les mots, mais une nouvelle manière de travailler. Tu parles même de méthodologie. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour toi comment ça se passe, ce moment où il faut s'y mettre et écrire ou réécrire?
Alors, ce que j'avais déjà remarqué les précédentes fois où je m'étais mis à corriger, à rédiger et à corriger, parce qu'au final, c'est la même somme de travail, c'est que je m'installais quelque part, c'était un petit rituel, c'était plus ou moins toujours dans la même période de temps. Donc par exemple, le matin vers 10h, devant mon bureau, dans mon appartement de l'époque. La seconde fois, c'était en tailleur dans mon canapé, le soir après le travail. Et ici, dans ma nouvelle maison, je me suis aménagée à un coin en me disant, ok, là je sais que je pars pour des mois et des mois de travail. Il faut que je ménage mon dos, etc. Mais je savais que l'endroit où je déciderais de démarrer deviendra l'endroit où tout se passera.
Ah oui, donc ça ne s'improvise pas.
Ça ne s'improvise pas.
Tu as réfléchi, c'est quoi ma grotte dans laquelle je rentre pour être confortable, bien écrire, ouais.
Donc je m'assieds sur ma chaise de bureau, dans mon bureau premier étage, où dès le début, je me suis imprimé une petite feuille qui dit en anglais... écrire une lettre forme un mot, écrire un mot forme une suite de mots forme une suite de phrase fait un paragraphe, une suite de paragraphe fait un chapitre.
Ça veut dire qu'en fait c'est petit à petit, quoi.
C'est ça.
On se met pas la pression, on pose là quelques mots.
Voilà. Et donc je m'installe là, j'ai pris le petit rituel d'allumer une bougie. Je lance Word, parce que j'écris dans Word. Moi, j'ai absolument besoin d'avoir Internet parce que la recherche de synonymes, de description d'architecture. Enfin, j'ai vraiment besoin de cette ressource.
Donc toi, t'écris sur clavier, quoi. C'est ça. T'as besoin d'un ordi. Et pourquoi ? C'est plutôt ça, plutôt qu'un calepin. Je vois que beaucoup de personnes ont des carnets aussi.
Parce que quand j'entre, comme j'appelle, en transe, et que les mots coulent, en fait, il n'y a que le clavier qui me permet de suivre le flux. Mm-hmm. Si j'écris, en fait, le temps que je termine ma phrase, j'ai déjà trois phrases qui sont formées dans ma tête et je n'arrive pas à suivre le rythme et je perds, en fait, ce que je voulais écrire.
Donc, le clavier, il colle quasiment, idéalement, à ton rythme.
C'est ça.
En tout cas, il s'en rapproche le plus, quoi.
Un rythme dactylographié.
De transe, d'écriture, d'état de conscience modifié, je ne sais pas.
Et donc, j'ai ces petits rituels un peu particuliers. Donc, j'ouvre, en fait, un nouvel onglet j'utilise Google Chrome. Et j'ai, dans Google Chrome, un tableau qui apparaît, en fait. Mm-hmm. Et je cherche un tableau qui me plaît bien, qui va être un peu sombre, pas trop clair. Et quand j'ai trouvé le tableau qui me plaît, j'ouvre Word, je le mets au milieu, et je commence à écrire. Donc c'est vraiment un petit rituel qui n'appartient qu'à moi.
Donc en fait, ça veut dire que ça, à chaque fois que tu écris, c'est comme ça que tu fais.
C'est comme
quoi.
Ça que je commence.
Donc, c'est vraiment minute par minute la même chose, quoi. Ça, c'est dingue, ouais.
Et je commence à écrire. Alors la première fois que j'ai écrit, c'était extrêmement laborieux. Je pense que j'ai écrit un petit peu plus de 1000 mots et il m'a fallu 2 heures. Et j'ai vraiment eu du mal. C'était vraiment pénible. Mais je sais que ça fait partie du process. Mm-hmm. C'est que quand on commence, en fait, il faut le temps que le cerveau s'habitue à ce qu'on va lui apposer.
Préchauffage, quoi.
C'est ça. Mm-hmm. Et donc, il ne faut vraiment pas se décourager à ce moment-là parce que c'est normal que ce soit dur et que ce soit laborieux et que ça ne donne pas des super résultats. Mm-hmm.
Et tu continues quand même, alors. Tu dis, on trace sa route, ouais.
Le deuxième jour, ça va un peu mieux. Le troisième jour, ça va un peu mieux. Et puis, en fait, ça va très bien.
Est-ce que tu sens, parce que avec toutes les plumes que je coach, toutes les personnes que j'accompagne dans l'écriture, je vois quand même que toutes ces personnes basculent à un moment donné dans une sorte de flow. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens que là, ça coule presque de source. Ouais. Est-ce que tu le ressens? Tu l'as déjà vécu?
Oui, ça m'arrive. Dans ces cas-là, si quelqu'un vient me déranger, je vais parler en monosyllable. Non, pas maintenant. Plus tard.
Sympa ou pas sympa?
Pas forcément sympa, mais c'est parce qu'il ne faut pas me sortir de cet état où l'aspiration est là et ça coule de source. Et je sais que ce qui va en sortir sera excellent ou en tout cas demandera très peu de retravail.
C'est ça, parce que quand tu rentres dans le flow... J'ai rarement entendu quelqu'un, après il faut oser l'admettre à voix haute, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui se dise c'est de la merde. Ce flow amène des choses juste hyper bonnes, quoi. C'est dingue.
Et l'écriture, en fait, est une alternance de moments difficiles où on n'y arrive pas, d'écriture laborieuse où le résultat, on sait qu'on va devoir le retravailler, mais on avance quand même, et de ces périodes de flow. Ce que j'aime bien aussi, c'est j'ai des moments où juste avant de commencer à écrire, par exemple, parce que j'écris le soir, arrive le moment où je suis en train de digérer d'avoir mangé et on termine notre série. Et je sais que d'ici quelques minutes, une demi-heure, je vais aller écrire.
Donc tu sens un truc qui monte en toi ou qui
Je sens une phrase qui se forme dans ma tête, en fait. C'est la première phrase du prochain paragraphe que je vais rédiger. Et si la phrase est bonne, en fait, c'est un peu comme la clé qui ouvre la porte.
C'est super beau la manière dont tu exprimes cette chose qui monte en toi, qui t'appelle. Là, ouais.
Et c'est vraiment cette petite phrase qui me tire par la main. Et si je l'ai, je vais tout laisser tomber. Je vais dire, OK, là, je suis prête, je vais écrire. Et mon conjoint l'a compris parce qu'il sait, il reconnaît le signe. Et il me dit, tu vas aller écrire chez... Oui, là, ça m'appelle.
Donc même ton entourage, ton compagnon en l'occurrence, a compris ce processus, ce rituel et a les signaux avant-coureurs.
Oui. Mm-hmm. Et donc là, je suis partie pour, en moyenne, je fais plus comme au tout début où c'était quand j'ai mis le mot, j'arrête. Maintenant, je fonctionne par quand j'ai fini la scène que je veux écrire, j'arrête. Et donc, en règle générale, je vais travailler parfois des 3 heures d'affilée. Mm-hmm. Bien sûr, le temps s'arrête, je lève les yeux et puis il est 3 heures plus tard. Mais quand j'ai terminé cette scène, je sais que j'ai fait ce que je voulais faire de ma session, parce que je divise mon travail en sessions d'écriture.
Oui, je sais que tu as une manière de travailler qui est très rigoureuse, et qu'en fait, chaque écrivain ou chaque auteur, chaque écrivaine, autrice, a cette manière particulière, personnelle d'écrire. Et toi, c'est vrai que c'est très discipliné. Et je suis très admirative de ce que tu fais parce que c'est, comme tu dis, c'est découpé, c'est saucissonné et ça te convient.
Il y a clairement une autodiscipline, mais en fait, quand on... je ne fais qu'écouter la façon dont je fonctionne le mieux. Et c'est comme ça qu'en fait, j'arrive à... C'est un peu comme si c'était ma to-do. Donc aujourd'hui, je fais ma scène. Mm-hmm. Et je tiens un journal de bord où j'ai écrit tel jour, session numéro... Donc par exemple, là, je suis à la session numéro 113, je crois. J'ai écrit tel chapitre et j'ai écrit autant de mots. Comme ça, quand je suis découragée, je regarde mon journal de bord et je me dis « Sophie, t'as déjà fait tout ça ?»
C'est encore une bonne astuce, hein. Parce que là, tu arrives dans ce côté « quand je suis découragée ». Et c'est vraiment un endroit dans lequel j'ai envie de t'emmener, c'est justement, et tu es en train d'y répondre, quand ça ne va plus, et quand on se dit « pourquoi je le fais ? À quoi ça sert ? » Quand on doute, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais, toi ?
Alors, j'ai différents moyens. Déjà, quand j'arrive devant mon PC, et ça m'est déjà arrivé de passer 20 minutes à réécrire la même phrase ou le même paragraphe, et j'arrive pas à trouver la fameuse petite phrase qui me tire vers la suite, elle passe pas. Et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, que ce fameux paragraphe, une fois, deux fois, trois fois, j'étais bloquée. Et tant que je n'arrive pas, en fait, à trouver cette tournure de phrase qui correspond, je ne passe plus.
Donc tu fais quoi ? Tu continues ? Tu te forces ou t'arrêtes ?
Ça veut dire que l'état d'esprit n'y est pas, la fatigue n'y est pas, ça commence à me faire perdre patience, ça commence à me faire douter, je me sens mal. Et là, c'est simplement que la lune n'est pas bien alignée.
Donc, oui, je comprends totalement cette idée.
Je laisse tomber et je me dis, c'est pas grave, j'ai déjà bien avancé, je passe à autre chose. Enfin, je recommencerai demain, je m'y remets demain. Ce soir, je me repose, je me détends. Mm-hmm. Et ce que je fais, c'est que donc j'ai ce fameux journal de bord. J'ai aussi régulièrement, quand j'ai passé des étapes qui pour moi sont vraiment symboliques et importantes, je vais faire une petite story Instagram, Facebook. Attends, je recommence. Je fais une petite story Instagram, Facebook à chaque fois que j'ai une étape importante symbolique à mes yeux. Que je réunis dans un album à la une sur Instagram. Et de temps en temps, en fait, je regarde cet album à la une qui a démarré, en fait, ce fameux été où j'ai commencé à faire cet atelier, ce week-end d'atelier d'écriture, et commencé à lire.
Donc, en fait, Instagram, j'imagine que ce n'est pas pour faire genre « regardez, j'ai écrit », c'est vraiment un outil, c'est une petite stratégie que tu t'imposes.
Clairement, bon, après, je ne sais pas comment les autres l'interprètent. Et franchement, ça m'est complètement égal. Mm-hmm. Je le fais pour moi.
Ouais,
je le partage pour moi, c'est des souvenirs que je me forme pour moi-même. Mm-hmm. Il s'avère que suite à ce week-end d'écriture, j'ai rejoint le cercle littéraire du Moquis des Livres. On est les mêmes filles, dont des filles qui étaient déjà là à cet atelier.
Ouais.
Et qui vont réagir à ces petites stories et qui vont me dire qu'elles sont admiratives, et qui vont me dire super, continue. On va échanger sur le sujet et d'avoir ce groupe derrière moi, qui me dit « Quand tu auras fini ton livre, je te l'achète, il faudra que tu me fasses une dédicace. »
Elles t'encouragent, elles sont les premières à faire la ligne pour attendre, voilà.
Ouais, franchement, ça m'a réconciliée avec une vieille idée que je pensais, qui était que les gens allaient me démonter ou allaient me décourager ou allaient me dire « Pourquoi tu fais ça ?» Et après, bon, ça arrive, mais dans des cercles complètement différents.
Ça ne te freine plus actuellement, en fait.
Ça ne me freine plus quand on me demande « Oui, mais ton histoire, qu'est-ce qui la rend différente des autres ?» Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que il ne faut pas être... Enfin, les écrivains savent qu'aucune histoire ne se ressemble. On apporte tous quelque chose de différent. Et même si on est dans le même style, ou que c'est encore une histoire de vampire, ou que c'est encore une histoire à l'eau de rose, ou que c'est encore un thriller... En fait, on met tellement de sa vulnérabilité, de son expérience personnelle et de sa propre voix, de sa propre interprétation des choses, qu'en fait, aucune histoire ne peut être la même.
Amen.
Et je suis convaincue que mon histoire est complètement unique. Et donc, quand on me dit « Oui, mais tu ne penses pas que tu as déjà écrit ce que tu vas écrire ?» Je dis « Non, ce n'est pas possible, c'est impossible. Ce que j'écris, ça vient de moi, c'est mon âme. » Et donc,
super.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et en donc, fait, je me rends compte que tu es déjà en train de donner des conseils, quoi. S'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire et se demander, ben justement, elles-mêmes, est-ce que mon écriture, est-ce que mon histoire, ça vaut la peine? Est-ce qu'elle est intéressante? Tu es en train de leur donner un super outil, je pense. J'invite vraiment tout le monde à bien retenir ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, unique, ta propre voix. Et c'est très précieux ce que tu viens de partager là. Merci.
Et pour en revenir du coup à la question initiale par rapport à ce que je fais quand je me sens découragée, simplement, je sais que c'est normal.
Mmh.
Et il ne faut pas s'arrêter au premier découragement parce que des découragements, vu la quantité de travail qu'il y a à faire et que c'est vraiment un marathon, il faut le voir comme ça, c'est un marathon. Il ne faut pas s'épuiser à vouloir tout faire tout de suite. Il faut partir du principe que ça va prendre du temps,
mmh.
mais que prendre son temps, c'est un gage qui va assurer la qualité et la cohérence. Et voilà, il y a des moments où je doute, et clairement, je doute toujours de moi-même, en me disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que mon histoire, elle est vraiment intéressante? Et puis maintenant, avec toute l'expérience et tout le vécu que j'ai eu, j'ai cette autre voix qui apparaît, qui me dit, déjà, t'écris ce que t'as envie d'écrire.
Et ça, c'est la confiance en soi. Ouais. Tu arrives, hein, oui.
Moi, ce que j'écris, c'est ce que j'ai envie de lire.
Mm-hmm.
Et il y a quelque chose dans mes tripes aussi qui me fait dire, OK, je fais ce que je dois faire.
Ouais.
Je sais ce que je fais. Je le fais bien. Je me fais accompagner. Je suis convaincue que je vais y arriver.
Waouh, j'ai envie de dire bravo, parce que félicitations. Tout ce processus depuis tes 12, 14 ans pour arriver à ce constat, avec l'énergie et la force que tu envoies, c'est super précieux pour toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ça, qui se sentent justement dans leur petite idée de « je vais rester toute seule dans mon coin pour écrire ». Tu leur envoies vraiment un super message. Du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais un dernier conseil à prodiguer à ces jeunes pousses qui nous écoutent et qui ont envie d'écrire aussi ou qui sont dedans?
Voilà, la chose que j'ai vraiment compris et que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est qu'écrire un roman, ça ne se fait pas tout seul. Pas dans le sens où, pas tout seul, il faut s'y mettre, ça c'est clair qu'il faut s'y mettre, mais il faut être accompagné.
Mmh.
Et le coaching avec toi, les retours de Katia, tous ces articles en ligne qui donnent des explications, tous ces bouquins d'auteurs à succès qui expliquent leur méthodologie, en fait, c'est des clés qui ouvrent énormément de portes, qui éclairent énormément de choses. Et ensuite, ce qu'on écrit, la manière dont on écrit, c'est propre à chacun. Il y a des styles complètement différents, des manières d'orienter un scénario complètement différent, un récit. Il y a, en fait, pour pouvoir plier les règles à ce qu'on veut faire, il faut quand même connaître les règles au départ.
Tout à fait.
Et avoir les bases, ce n'est pas quelque chose qui va brider, que du contraire. Avoir les bases, c'est ce qui permet, en fait, après, de faire ce qu'on veut.
Waouh.
Et j'aurais aimé avoir ces bases dès le début. J'aurais perdu beaucoup moins de temps. J'aurais aimé avoir cet accompagnement, oser dire, j'écris quelque chose, j'écris un roman, c'est mon rêve et je vais y arriver. Et ça m'aurait vraiment fait gagner énormément de temps.
Merci, merci beaucoup de partager toute cette richesse. Et franchement, moi j'ai envie de... D'abord, j'ai plein d'émotions, ça palpite en moi quand j'entends ça, parce que je connais une partie du processus et je sais qu'il est long, mais il est super vertueux, il est bon et on arrive au bout.
Et un dernier conseil qui est vraiment hyper important, c'est de ne jamais s'arrêter de lire les mêmes livres qu'on écrit. Donc, depuis que j'ai commencé à rédiger, et même déjà avant, je lis énormément de romans fantastiques, de fantasy. C'est aussi ce qui m'a inspirée au départ, l'envie d'écrire. J'avais envie de pouvoir offrir à toutes ces adolescentes qui, comme moi, ont eu des difficultés et dont les livres ont permis de... ont sauvé la vie, vraiment. Moi, je dis toujours, ce qui m'a sauvée à l'époque, c'était, entre autres choses, les Harry Potter.
Mm-hmm.
Et les Final Fantasy, qui est un jeu vidéo avec vraiment des histoires hyper riches, hyper prenante. Et les week-ends et les soirées que je passais à me plonger dans ces univers et à jouer m'ont vraiment permis de survivre à cette époque qui était vraiment difficile. Mmh. Et avec ce roman, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'offrir un univers dans lequel on pourra se plonger et qui aideront beaucoup de personnes à traverser ce que j'ai traversé à l'époque.
Oui, hein, transmission, toujours, nos partages, nos vécus qui vont aider d'autres vies, d'autres personnes, quoi. Du coup, Sophie, j'ai une dernière question pour toi. C'est la question que j'aime bien poser à la fin de chaque rencontre. Est-ce qu'il y a pour toi des mots qui délivrent ?
Le terme vulnérabilité, parce que c'est en acceptant d'être vulnérable par rapport à ma propre histoire, par rapport à mes propres peurs, qu'en fait, j'ai réussi à enrichir mon parcours d'autrice. Et le contenu de mon roman, c'est en m'ouvrant à Héloïse, en m'ouvrant à Katia, en m'ouvrant à mes amis et en mettant toutes mes émotions et tout mon vécu dans ce roman que je me sens libérée.
Vulnérabilité, quel mot, mais rempli d'intensité. Franchement, je trouve que tu as fait le jeu du début à la fin pour arriver à cet état... Ouais, d'oser se livrer, d'oser se montrer tel qu'on est, de s'accepter, d'envoyer ce message-là aux autres. Et à travers l'écriture, c'est un message hyper fort. Donc Sophie, un grand, grand merci. Je suis émue parce que c'est un beau parcours et je suis fière et heureuse d'avoir pu le partager en partie avec toi. Et encore merci de nous avoir partagé tout ça.
Avec plaisir.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas, respire et laisse les mots te délivrer.